avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle éducation comme chaque semaine. Les enfants et les adolescents n'ont jamais été autant abreuvés d'informations et pourtant, éduquer à l'esprit critique est devenu le grand défi de l'école partout dans le monde aujourd'hui. Comment apprendre à penser par soi-même, à différencier les opinions et les faits réels, à confronter les points de vue? Presque tous les enseignants se sentent aujourd'hui concernés par ces questions et souvent manquent d'un mode d'emploi, d'une méthode dans un monde où l'école n'a plus le monopole du savoir et se trouve concurrencée par les réseaux sociaux. On va en discuter avec vous, Sophie Mazet. Vous êtes une enseignante qui a une longue pratique de ces questions. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure d'anglais en lycée à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Après le grand succès de votre premier livre, Manuel d'autodéfense intellectuelle, vous récidivez. Il faut dire qu'une vie entière de prof n'y suffirait pas. Au milieu des fake news et des divers complotismes, vous publiez Autodéfense intellectuelle, le retour, lexique pour esprit critique chez Robert Laffont. Également avec nous au téléphone, cette fois-ci, non sur Internet, pardon, nous sommes en ligne avec Sylvain Vagnon. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous êtes spécialiste de sciences de l'éducation à l'université de Montpellier et vous travaillez en particulier sur l'éducation civique. Et puisqu'on est complètement transparent dans cette émission, donc je vais bien réexpliquer à nos auditeurs. Sophie Mazet dans notre studio, nous sommes masqués, because coronavirus, et Sylvain Vagnon est en ligne avec nous via Internet. Voilà, comme ça tout est dit. Et en fin d'émission, la chronique du psychologue Ibrahima Girou, il est à Dakar. Parents, enfants d'ici et d'ailleurs, et chaque semaine, on a sa chronique. Il est bien inspiré, il nous dira comment bien utiliser la vérité dans l'éducation des enfants. Pour les enfants qui mentent, par exemple, quand ils ont des mauvaises notes. Alors là, on n'est plus sur la vérité et l'aspect psychique du problème. Voilà, vous nous appelez en tout cas les voisins et les voisines. Si vous êtes enseignant, si vous êtes confronté à ce problème de l'éducation à l'esprit critique, 33-7. 64 45 51 41. Vous avez la parole dans l'émission. N'attendez pas surtout la fin de l'émission. Appelez-nous dès maintenant. Je vous lis quelques messages qui ont été postés sur nos réseaux sociaux. Hamson est à Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Il nous dit « La première des choses à faire dans notre pays, c'est de supprimer la religion dans les écoles, ce qui permettrait aux élèves d'accroître leur esprit critique et non les preuves par la foi. » Ensuite, les enseignants devraient initier des séances d'information et de débat sur les religions et ou pratiques coutumières. Les réseaux sociaux ne sont que le miroir de ce que croient et pensent les communautés. Voilà, c'est le point de vue d'Hamson à Goma. Bourgeois est à N'Djamena au Tchad. En Afrique, nous dit-il, c'est difficile de penser différemment de ses parents. Et avec des superstitions parfois véhiculées, c'est pas évident d'avoir de l'esprit critique. C'est pourquoi on ne s'entend pas souvent avec ma grand-mère, tous les deux, sur certains sujets. Elle me disait par exemple que Israël se trouve au ciel. Et si j'essaye de lui dire qu'Israël est bien sur terre, ça devient un conflit entre nous. Car pour elle, chrétienne, dire qu'Israël est sur terre est un blasphème. Réponse de Malik, qui est enseignant à Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar au Sénégal. En réponse donc à Bourgeois, « Vous avez tout dit mon frère du Tchad, trop de superstitions dans nos sociétés. J'ai ce même problème avec beaucoup de gens et même certains proches. Ils vous diront qu'il n'y a eu qu'un seul pharaon, que la théorie de l'évolution c'est du mécréanisme, que la Covid-19 n'existe pas, que les Occidentaux sont maîtres de l'univers mais qu'ils iront en enfer et que nous, Africains, devons souffrir sur Terre. » Car Dieu nous a réservé le paradis. On dit même que critiquer l'action gouvernementale est une hérésie et que philosopher, c'est renier. Voilà, un vaste programme. Et puis, un auditeur aussi nous a posté ce message. C'est Josué qui est à Kinshasa, en RDC.
J'avais un ami quand on était encore des élèves. Cet ami-là avait l'habitude de douter. Et presque tout ce qu'on lui disait par rapport à une information, il doutait. Il voulait toujours qu'on puisse lui étaler le preuve tangible pour qu'il l'accepte. Et au fur du temps, on s'est rendu compte que on lui forgeait. Normalement, son esprit critique était devenu fort. C'est lui peut-être qui avait gagné plus parce qu'il doutait. Voilà pourquoi j'ai essayé un peu de vous dire que l'esprit critique, c'est aussi le fait de douter.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
La religion du doute, là il faudrait plusieurs heures hein, pour en discuter. On prend aussi un auditeur qui nous appelle de Nouakchott en Mauritanie. Bonjour Bouna.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être chez 7 milliards de voisins. Vous êtes directeur d'école, vous avez des élèves dans votre école privée de niveau primaire et secondaire. Et je crois qu'avec les élèves du secondaire, vous menez des expériences assez particulières sur le questionnement, c'est ça Bouna?
Oui, nous organisons souvent des petits espaces de discussion, surtout avec les grands élèves, hein, c'est du lycée.
Oui.
Et il y a 2 semaines, j'ai demandé à des volontaires de se lever et de faire le tour de l'école. Et lorsque ils sont revenus, je leur ai dit, mais pourquoi vous avez fait le tour de l'école? Ils m'ont dit, parce que vous l'avez demandé, monsieur le directeur. Exactement, mais ne faites jamais ce que l'on vous dit tant que vous ne savez pas pourquoi. Et on a rigolé un peu. Et après, c'était pour moi une manière de leur dire qu'ils sont toujours sujets à des affirmations gratuites et de la part de tout le monde.
Et comment ont réagi les élèves et les autres élèves, ceux à qui vous n'aviez pas ordonné de faire le tour de l'école?
Ce n'était pas ordonné. J'ai demandé à des volontaires de le faire.
Ah oui! D'accord. Qui est volontaire pour faire le tour de l'école? Vous avez eu des volontaires qui ont fait le tour de l'école.
Oui.
Mais alors, du coup, ils se sont retrouvés un peu... ils se sont sentis un peu honteux d'avoir obéi à un ordre sur lequel il n'y avait rien à comprendre.
Oui, mais c'était le début d'un débat assez intéressant. Et cela a même généré les reproches de mes professeurs. Parce que ça a inclus une petite mode ici. Lorsque le professeur explique, l'enfant lui demande pourquoi. Pourquoi un signe négatif devant une parenthèse, il rend tout le contenu de la parenthèse négative.
Pourquoi, pourquoi ça? Alors là, évidemment, pour le prof de maths, ça va être compliqué.
Oui, mais je suis quand même assez heureux du fait que les enfants, maintenant, ça leur a ouvert un peu les yeux. Et je sais qu'il y a encore du travail. Parce qu'ils sont souvent connectés. Et même les adultes, se laisse parfois berner par des choses vraiment qui n'ont aucun fondement. Quoi. C'était une manière d'attirer l'attention.
Le but finalement, Bouna, de ce que vous faites avec vos élèves, vous voulez arriver à quoi avec vos élèves finalement?
Mais arriver à développer un peu le sens critique. Je dois vous avouer que lorsque je suis entré au lycée, l'apprentissage de la philosophie a été une vraie révélation pour moi. Je ne prends pour réalité que ce que je ne peux pas nier. Et tout ce qui me semble évident devant moi, je dois remettre en question, je dois poser la question, est-ce que c'est vrai ou faux? Et c'est cette idée-là, c'est ce comportement que je voulais transmettre aux enfants. Ne prenez pour argent comptant que ce que vous ne pouvez nier.
Et vous abordez des discussions d'actualité, par exemple, Bouna, avec vos élèves?
Absolument. Surtout le vaccin contre le corona qui va bientôt faire son apparition ici. Et il y a beaucoup de gens qui disent « Non, non, on nous envoie du poison. » Mais je leur dis « Quel est le but de vous envoyer du poison? Pourquoi les gouvernements du monde entier sont ligués contre vous pour vous tuer ?» Ça n'a pas de fondement. Il faut... Et j'ai tendance à dire qu'une personne saine, elle a tendance à être sereine. Ceux qui se sentent toujours menacés, ils doivent se regarder en face, ils doivent essayer de voir pourquoi ils ne se sentent jamais en sécurité. Ils pensent toujours qu'il y a des gens qui les menacent, qui veulent les tuer. Ça, ce n'est pas naturel. Notre nature, c'est la sérénité, c'est l'esprit critique, c'est le fait d'essayer de comprendre les tenants et aboutissants de tout.
Qu'est-ce que vous diriez, Bouna? Vous avez entendu les messages que j'ai lus d'auditeurs. Qu'est-ce que vous diriez aux enseignants qui nous écoutent et qui se demandent par quel bout prendre le problème pour enseigner l'esprit critique et apprendre à penser par soi-même?
Je ne peux pas donner des leçons à des enseignants comme moi, mais j'ai eu une autre idée sur RFI d'ailleurs, d'un de vos invités qui a demandé d'écouter les élèves. On ne peut pas se lancer de zéro. Il faut savoir qu'est-ce qui emporte les élèves, qu'est-ce qui attire l'attention des élèves. Et souvent, des choses qui ont une forte charge émotive, ça les intéresse. Les images, les affirmations, ça, ça a tendance à les embourber facilement. Mmh. Et je prends souvent comme point de départ un exemple comme ça.
Merci.
Et parfois,
oui,
parfois ça marche. Je vois que les élèves, certains, au moins certains d'entre eux, ne sont pas emportés trop facilement comme ça.
Oui, oui. Oui. Merci Bouna, en tout cas, on a bien compris, vous commencez par écouter les élèves et partir de leur centre d'intérêt ou de leur fausse croyance. Merci infiniment d'avoir été en ligne avec nous. Bien sûr, vous pouvez continuer de nous appeler pour réagir, donner votre point de vue, comment enseigner l'esprit critique. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Sophie Mazet, Sylvain Wagnon, on a entendu des messages d'auditeurs sur le continent subsaharien. Alors, il faut bien préciser que l'Afrique n'a pas le monopole du complotisme, des fausses croyances, etc. C'est le monde entier qui est dans cette situation. Sophie Mazet.
Oui, et puis surtout, en fait, ce qui était intéressant dans les réactions des auditeurs, c'était les classes d'âge, en fait, parce que on a vu les élèves, les jeunes, etc. Mais il y avait aussi celui qui disait qu'avec sa grand-mère, c'était un petit peu compliqué de parler de l'existence d'Israël. Donc ça, je pense que c'est quelque chose à ne pas occulter aussi. C'est que finalement, la différence entre des gens plus âgés et nos élèves, c'est que nos élèves sont en formation et qu'ils ont l'opportunité qu'ils n'auront peut-être pas pendant le reste de leur vie d'avoir un esprit qui s'ouvre, etc. D'où l'auditeur aussi qui disait que la question de la religion à l'école était cruciale.
Vous voulez dire que c'est le moment clé, en fait.
C'est un moment où, voilà, je pense que jamais dans leur vie, à part dans leur jeunesse, ils auront cette occasion-là, parce qu'ils n'auront pas le temps, ils seront dans le monde du travail, il y a plein de choses aussi concrètes qui vont faire qu'on arrête de se former à un moment donné dans la vie.
Sylvain Vagnon, vous voulez réagir par rapport au message des auditeurs ?
Oui, c'est vrai que c'est des témoignages très intéressants, parce que justement, on voit que c'est des débats, j'allais dire, aussi historiques, très forts, parce qu'il y a une lutte contre les dogmes aussi, hein, sur... des éléments qui peuvent être des dogmes religieux, mais qui peuvent être aussi des affirmations, en tout cas complotistes actuellement. Et puis aussi l'idée qui a été dite de donner du sens à ce que l'on fait, c'est aussi ça le sens critique, hein, c'est-à-dire ne pas simplement avoir des informations, donner des informations, mais aussi donner du sens à ces informations. Et je crois que justement, quand vous avez commencé l'émission en parlant de penser par soi-même, c'est une construction, c'est un état d'esprit, c'est quelque chose qui se fait tout au long de sa vie aussi, et c'est en cela que c'est à la fois complexe, mais que c'est aussi particulièrement passionnant, parce que l'école nous a montré qu'elle avait un savoir, qu'aujourd'hui elle n'a plus le monopole de ce savoir, et qu'aujourd'hui il faut évidemment à la fois apprendre à hiérarchiser ces informations et être capable aussi de les évaluer.
Sophie Mazet, alors vous proposez depuis une dizaine d'années, en dehors de vos cours d'anglais, d'apprentissage de la langue anglaise, un atelier d'autodéfense intellectuelle. Comment vous est venue cette idée ?
Alors ça m'est venu l'année où j'ai été face à la crédulité de certains de mes élèves. J'ai voulu leur faire une blague, en fait, ou plusieurs blagues sur toute l'année. C'est-à-dire que j'ai glissé des faux textes, des trucs parodiques, un peu les équivalents du Gorafi en anglais, dans chacune des séquences du cours. Mais par contre, je les ai prévenus au début de l'année. Je leur ai dit, voilà, dans chacun des thèmes qu'on va étudier, il y aura un texte qui est bidon. Et il faudra que vous le trouviez.
C'est un jeu inventé.
Complètement. Qui est un truc qui n'a ni queue ni tête. Ou plutôt qui ressemble à quelque chose qui est un vrai article, mais dont le contenu n'a ni queue ni tête. Et en fait, votre tâche, voilà, ce sera le jeu, ça sera de trouver quel est le faux texte. Et en fait, ils n'en ont pas trouvé un seul. Alors qu'il y en avait un qui était vraiment, vraiment totalement évident.
C'était
un faux discours de Barack Obama qui se terminait par « fuck you ».
Ouais.
Et donc, je m'étais dit, celui-là, ils vont le voir venir gros comme une maison.
Barack Obama disant « fuck you » et les élèves comprenant très bien cette expression en anglais.
Tout à fait.
Comment n'ont-ils pas vu ?
Bah, c'est ça, mais alors après, il y en a une qui a levé la main au fond pour dire « madame, le texte, il est vrai ». Donc, elle remettait un peu en question. Puis après, d'autres langues se sont déliées. Ils ont dit « oui, mais madame, on n'a pas osé dire parce que c'est le cours et on ne savait pas trop si c'était ça ou pas, parce que c'était une question finalement de confiance qu'ils me faisaient, parce que le problème, c'est que c'était une classe avec qui je m'entendais très bien. » Et donc, ils avaient une entière confiance en moi. Et du coup, même si je leur avais dit, je leur mentirais à certains moments, ils n'arrivaient pas à croire que je puisse leur mentir. Et donc, ils prenaient ce que je disais pour vrai, parce qu'ils m'aimaient bien, parce que ça se passait bien. Et voilà, donc c'est parti de là, en fait. Je me suis dit, mais bon, qu'est-ce qu'on va faire pour eux ?
Qu'est-ce qu'on va faire pour eux ? Vous travaillez beaucoup à partir de l'humour. C'est important pour des adolescents ?
Oui, j'essaie
de dédramatiser le problème, finalement.
Oui, pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est un cours optionnel où ils s'inscrivent et après, ils sont obligés de venir pour toute l'année. Donc, j'essaye de faire quelque chose qui les maintienne, qui maintienne leur intérêt, en fait, parce que ça, c'est... Voilà, c'est un cours auquel ils ne sont pas obligés de venir et il faut qu'ils aient envie de venir. Et puis la deuxième chose, c'est que ça, après, c'est un truc de personnalité de ma part aussi, c'est que quand les choses sont pas drôles, je m'ennuie très très vite. Donc ça tient à ça et puis ça tient aussi effectivement à la volonté de dédramatiser sur certains sujets où ça sera un petit peu compliqué de discuter.
En ce moment, vous travaillez sur quel sujet avec vos élèves de classe de première? Alors, dans cet atelier d'autodéfense intellectuelle?
En ce moment, on est sur la fourberie argumentative.
Oula.
Je leur apprends en fait à argumenter de manière très fourbe. Pourquoi? Pour que, non pas pour qu'ils le fassent dans la vie après, je leur ai dit non, ça c'est pas bien, mais par contre, l'idée ça va être que vous sachiez détecter quand quelqu'un vous fera en face de vous une argumentation fourbe. Et donc pour ça, on apprend, voilà, tout ce qu'il y a de plus fourbe, voilà, en argumentation.
On va réexpliquer ce que signifie exactement le mot fourbe.
Ouais. Ça veut dire... l'idée, c'est que c'est pernicieux, en fait. C'est qu'on essaye de mentir aux gens, de les arnaquer, oui, tout simplement.
C'est une forme de malhonnêteté.
Ah oui, c'est de la malhonnêteté totale, bien sûr. Mais du coup, l'idée, c'est, en fait, il y a une situation, il y a un petit procès, une situation où il y a un procès. Je leur raconte une histoire, il y a un procès. Et eux, ils choisissent la personne dans la situation, ils choisissent le protagoniste qu'ils trouvent le plus coupable. Et après, ils deviennent son avocat, ils doivent le défendre. Ils doivent écrire une plaidoirie fourbe. Mmh.
Alors, je sais que vous travaillez aussi pas mal sur le sujet des vaccins, du coronavirus. Depuis près d'un an, quand même, le monde vit au rythme des études, des statistiques scientifiques sur la pandémie. Et en même temps, c'est vrai que ça alimente aussi, paradoxalement, le complotisme. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent avec ce contexte-là depuis près d'un an pour vos élèves? Qu'est-ce que vous avez observé comme changement?
C'est qu'il est omniprésent, le contexte. C'est-à-dire que la question de la vaccination n'était pas quelque chose qui les intéressait follement avant cette année. Et là, ils sont très intéressés parce qu'on ne parle que de ça dans l'actualité, qu'à la maison, ils parlent sûrement de ça aussi. Et du coup, cette année, ça les intéresse. Donc, c'est une occasion unique aussi, parce que moi, c'est un sujet auquel je m'intéresse depuis plusieurs années, les anti-vaccins, etc. Donc ça, le contexte leur donne envie, je pense, d'en savoir plus là-dessus. Ils posent des questions.
Qu'est-ce que vous leur répondez? Ils posent quoi comme question? Vous répondez quoi dans ces cas?
Sur la question de... Alors, il y a une grande phrase qui revient toujours, qui est « on ne sait pas ce qu'il y a dedans ». Et alors, j'aime bien décortiquer avec eux cette phrase. Je leur dis, voilà, qui est « on » ? Est-ce que « on », c'est vous ? Est-ce que « on », c'est moi ? Est-ce que « on », c'est les chercheurs qui ont mis au point le vaccin ? Alors, si c'est vous et moi, on va sur Internet, on trouve la composition du vaccin, c'est marqué, toutes les substances. Voilà, il y a tout. Et puis, si on ne sait pas à quoi correspond telle substance, on cherche. La technique de l'ARN messager, vous avez toutes les informations. On va chercher ensemble, éventuellement. Mais j'aime bien décortiquer la phrase « on ne sait pas ce qu'il y a dedans ». C'est « on dit que », c'est « on sait bien que ». Tout ce « on », en fait, qui est très intéressant.
Sylvain Vagnon, est-ce que vous pensez que là, avec le contexte si particulier, il y a quelque chose aussi de changé dans l'urgence d'enseigner l'esprit critique avec les élèves?
Oui, je pense que là, le contexte est tellement puissant, fort, qu'il y a une urgence qui était déjà perceptible. Je pense que là, justement, ce qu'a dit Sophie Mazet est extrêmement important, parce que c'est de noter qu'on part justement de l'actualité, d'un contexte particulier. Et je pense que ce que l'on vit depuis maintenant un an est un accélérateur, justement, de points forts, c'est-à-dire de ce complotisme, etc. Et l'intérêt vraiment, je pense, de l'esprit critique aussi, c'est qu'il touche toutes les matières. Si on reste sur l'école, l'école est quand même segmentée en disciplines. Et là, on a quelque chose avec l'esprit critique qui transcende, qui développe en réalité une réflexion au-delà des simples réflexions. On peut pas penser que maths, que français, que histoire, que géographie. Et donc, ça demande ici aux enseignants de développer ce discernement. Voilà. Et je dis ça parce que, évidemment, la France a l'enseignement moral et civique, qui est une caractéristique, parce que ce n'est pas une discipline, c'est pas une matière, mais il y a des heures quand même. Et normalement, ce qui est l'idéal, ce soit un enseignant de toute discipline qui puisse le faire, et pas simplement celui qui, historiquement, est celui d'histoire et géographie. On a toujours connu plutôt un enseignant d'histoire géographie qui faisait l'enseignement moral et civique. Et par exemple, avec Sophie Mazet, on a justement une enseignante de langue. Et je crois que c'est important aussi que d'autres enseignants s'approprient véritablement cet enseignement moral et civique. Et l'actualité nous appelle comme une urgence, hein, évidemment, à réfléchir à toutes ces questions.
Avant le coronavirus, il y avait une autre urgence. Hein, ça a été bien sûr l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire en lycée, décapité en octobre 2020 pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. Sophie Mazet, est-ce que vous, parfois, vous faites l'objet de suspicions, de critiques, d'insultes, ou est-ce que votre méthode est tellement basée sur une actualité plus froide, même si vous parlez à l'heure actuelle du coronavirus, est-ce que vous prenez certaines précautions pour ne pas marcher sur un terrain inflammable ?
Non, il faut y aller.
Je ne vous pose pas la question de l'autocensure, hein, d'ailleurs.
Mais les terrains inflammables, justement, c'est là qu'il faut aller, en fait. C'est ça le truc aussi, c'est qu'il faut y aller. Mais par contre, ce que je fais, c'est que j'y vais pas tout de suite. Je travaille sur les questions les plus sensibles, comme le complotisme, etc., la radicalisation religieuse aussi. Ça, on y travaille dans un second temps, après avoir enseigné les bases de la méthode, à savoir un travail serré sur le langage, l'argumentation, les chiffres, etc. On travaille d'abord sur des choses qui sont un petit peu moins concrètes, en fait. Et à partir du moment où les élèves ont accepté la méthode de pensée critique, ont accepté que voilà, pour penser droit, il faut une méthode. Et il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Il y a en revanche des choses qu'on va pouvoir, des pistes vers lesquelles on va pouvoir aller. Donc j'essaie d'abord de leur faire accepter la méthode parce que c'est aussi une question de confiance. À partir du moment où ils me font confiance, parce qu'ils voient bien que la méthode, elle est pour eux aussi, et que je n'ai pas du tout intérêt à leur raconter quoi que ce soit de faux, de malhonnête. À partir de là, c'est beaucoup plus facile d'aller sur des terrains plus sensibles, parce que je leur dis, mais attendez, ça, regardez, ça, vous l'avez admis à propos de tel sujet. Pourquoi, à propos de tel sujet, ça ne passe pas ? Ah bah oui.
Sophie Mazet, Sylvain Vagnon, vous restez avec nous. Les voisins et les voisines, on voyage dans notre langue aujourd'hui, mais avec la liberté de penser. Pas forcément contre, d'ailleurs, mais penser par soi-même. Une mission que se donne aussi l'école pour former des citoyens. On verra avec quelle efficacité. Vous pouvez nous appeler au 33 7 64 45 51 41. On se retrouve juste après le trio Graines Sémées et Gaël Faye. C'est Poussière.
J'habite actuellement dans une maison de retraite. C'est difficile de finir ainsi quand on a vu autant du monde. Est-ce que j'ai souri ? Je sais que j'ai dansé devant vous. Je vendais des arbres en fer dans la rue des commerces. Je suis une éphémère que vos regards renversent. Les rues de Pretoria sont vides. Le vent s'étale dans les townships. Les allées de Djobourg ou celles de Pretoria ont un point commun. Un point de couleur.
Un point de couleur.
Partout, cette même poussière dans l'air. Cette même poussière dans l'air. Cette même poussière dans l'air.
Dans les cheveux des grandes villes, aux tables d'étranges endroits, dans les vents chauds qui coiffent les incendies, dans les livres qui contiennent les forêts d'autrefois, partout, cette même poussière dans l'air.
Envie de digérer des agonies. Les autoroutes s'étendent en avant, brûlent de leur peau de serpent. Le sifflement de l'air sur la fenêtre nous envoûte. Nous avons croisé les agriculteurs d'hier, ils faisaient un grand écart avec leurs yeux. Nous avons écouté l'autre, celui qui parlait. Ses mains étaient un livre ouvert.
Vous écoutez 7 milliards de voisins, on est sur RFI en direct et comme chaque semaine on parle éducation et aujourd'hui on se demande comment enseigner l'esprit critique, comment enseigner aux élèves à penser par eux-mêmes. C'est en principe le défi de l'éducation civique, de l'école en général, un défi de plus en plus urgent aujourd'hui. Dans les faits, c'est plus compliqué, les enseignants manquent de formation. Sophie Mazet, vous publiez Autodéfense intellectuelle, le retour, puisqu'il y a eu le succès de votre premier livre, Manuel d'autodéfense intellectuelle. Vous êtes professeur d'anglais et vous animez chaque semaine dans votre lycée à Saint-Ouen un atelier d'apprentissage à l'esprit critique. Hein. Ça s'appelle atelier d'autodéfense intellectuelle. Et d'ailleurs, j'étais en train de vous poser la question pendant qu'on écoutait la chanson de Gaël Faye. Vos élèves, ils sont volontaires pour venir dans cet atelier. Ouais, Ce n'est pas le cours d'anglais ordinaire.
Non, ils s'inscrivent.
Est-ce que du coup, ça veut dire... Est-ce que ce n'est pas moins difficile pour vous parce que vous avez tous des élèves qui veulent bien s'interroger sur le pourquoi du comment et se méfier des informations qui arrivent toutes prêtes?
Alors, ça dépend. Il y en a des fois qui sont vraiment qui viennent en se demandant vraiment par curiosité. Alors, je les arnaque un petit peu quand je les recrute, mais ça, je leur dis après, c'est que je leur dis « Attention, inscrivez-vous vite, il n'y aura pas des places pour tout le monde. » Alors que je sais très bien qu'il y aura des places pour tout le monde. Sauf exception, mais enfin, d'habitude, c'est 15 élèves. Quoi. Donc, évidemment que j'ai de la place pour tout le monde, mais du coup, ils se précipitent un petit peu pour s'inscrire. Après, je leur explique « Voyez, pourquoi vous êtes inscrits ?» La regardez un petit peu. Et ça, on fait quand on travaille l'argumentation. Donc, ce sont des gens qui sont volontaires. Et pour certains, en fait, ça peut être intéressant parce qu'ils sont volontaires, parce que déjà, ils ont été sensibilisés sur la question du doute à ne pas croire l'actualité, à ne pas croire les médias. Mais du coup, ils se mettent à croire ce qu'ils trouvent sur Internet, etc. Donc, il y a des élèves qui sont très sensibles à des théories du complot, des choses comme ça, qui viennent parce qu'ils croient qu'en fait, on va faire ça et je vais être d'accord avec eux sur la question des théories du complot. Donc, et je vais leur dire qu'on nous ment, qu'on nous cache tout. Du coup, ils viennent pour ça parce qu'ils sont déjà sensibles à la question du doute, juste ils sont partis sur des mauvaises méthodes.
Donc ça donne des débats assez animés.
Ça peut être intéressant, oui, ça peut être très intéressant.
Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Sylvain Vagnon, vous êtes aussi avec nous, avec Sophie Mazet. Vous êtes historien spécialiste de sciences de l'éducation à l'Université de Montpellier. Vous travaillez en particulier sur l'éducation civique et puis les pédagogies alternatives et ce qu'elles peuvent apporter dans l'apprentissage du penser par soi-même. On accueille un auditeur qui nous appelle, Philippe, qui est à Paris. Bonjour Philippe.
Bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes enseignant, Philippe, vous êtes en lien avec les jeunes?
J'ai été en lien avec des jeunes, pas très jeunes, hein, c'était des jeunes d'une vingtaine d'années en fait.
Oui, voilà. Oui, quand même.
J'ai enseigné le domaine de l'art en fait.
D'accord.
Ce qui est assez intéressant parce que c'est un travail en fait de développement sur soi.
Oui.
Et c'est ce qui m'intéresse dans ce sens.
Alors dans l'art, on est dans le subjectif quand même.
Ah, on est dans le subjectif, mais dans la photographie, on est dans l'objectivité de la réalité.
Ah oui.
Et il faut transférer. C'est pas comme la peinture, vous voyez. La peinture, vous faites un tableau, s'il fait un temps gris, vous pouvez faire un ciel bleu. En photo, c'est pas le cas.
Oui, enfin, il faut se débrouiller. Technologiquement parlant, on peut tout faire avec la photo maintenant.
Et oui, mais enfin, si on fait de la photo de façon, je dirais, un peu puriste, c'est ce que j'essaie de leur apprendre. Après, on peut divaguer, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais l'idée, c'est quand même, si vous avez, par exemple, un modèle qui vous fait la gueule et que vous avez besoin qu'il sourie, eh ben, il faut travailler la psychologie. Donc, vous êtes face à des réalités.
Ah.
Donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir faire, quoi. Bon.
Et alors, qu'est-ce que vous souhaitiez nous dire, justement, sur l'apprentissage de la pensée critique?
Si vous voulez, le problème des jeunes dont on parle là, par exemple, qui vont dans les fake news et qui sont persuadés de ce qu'ils vivent beaucoup dans l'émotionnel, et c'est vrai aussi pour les adultes, moi j'en connais, ils sont sur internet, ils finissent par croire tout ce qu'ils voient. Moi j'appelle ça la logique du shaker, tout ce qu'ils prennent, ils mettent dans une boîte et puis ils se couent bien, et puis après ils ont l'impression de sortir des choses intelligentes. Et ce qu'il y a, c'est que dans ce qu'ils reçoivent, il y a évidemment des choses qui sont vraies et il y a aussi des choses fausses. Vous savez, c'est comme en mathématiques, plus par mois ça fait moins. Et la vérité plus mensonge, ça fait mensonge. Et donc il balance du mensonge à tout le monde et il pollue complètement le système. Et ça, je trouve ça assez dommageable. Et je pense que pour ça, il faut avoir de l'esprit critique. C'est ce que disait tout à l'heure le monsieur. Vous avez eu. Et c'est l'esprit scientifique. L'esprit critique, c'est l'esprit scientifique. Alors, c'est vrai que ce qu'il faut aussi, c'est que les gens apprennent à aller chercher la vérité, c'est-à-dire à expérimenter. C'est-à-dire travailler sur eux et expérimenter aussi, même dans les domaines irrationnels. Moi, je dis souvent que je suis un rationaliste de l'irrationnel. C'est d'ailleurs Kandinsky qui disait ça. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher par son propre expérience les vérités. Sinon, on ne peut pas savoir. C'est très difficile. On voit bien qu'il y a des journalistes qui vont jusqu'à mourir pour savoir, pour nous transcrire la vérité. Parce qu'ils vont chercher les choses tellement loin qu'à un moment, ils secouent des trucs, ils vont chercher des choses qui dérangent. Quoi. Bon. Et ça, c'est des choses que les jeunes ne se rendent pas compte. Ils ne savent pas aller chercher la vérité. Et je pense que ce qu'il faut, alors ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que tous ces principes-là est basé sur ce qu'on appelle la Trinité. La Trinité, c'est la pensée, le sentiment, et la volonté. C'est la pensée, c'est l'intellect, le sentiment, c'est le cœur, et la volonté, c'est l'action-création, c'est ce qui amène ces énergies de pensée-sentiment dans les réalités, c'est-à-dire qu'on va construire, on va créer quelque chose à partir de ces énergies pures, parce que la pensée et le sentiment, c'est des énergies pures. Et on va retranscrire ça à partir de l'énergie de la volonté dans un objet matériel, une création, par exemple, dans le domaine artistique, ou dans n'importe quel domaine, hein, on est créatif dans tout un tas de domaines. Et ça, si vous voulez, les gens qui ne développent que l'émotionnel, et qui n'ont pas l'intellect, ils vont faire des choses discordantes quand ils vont rentrer dans les réalités de la construction d'un objet de création. Hein, c'est-à-dire qu'ils vont, quand ça va passer par la volonté, si le trépied n'est pas équilibré dans tous les domaines, à la fois dans la volonté, mais aussi dans le désir de l'émotion et dans l'intention de l'intellect, si tout ça n'est pas équilibré, bah, c'est discordant. Et c'est le cas de beaucoup de gens qui vont chercher, qui diffusent des fake news parce qu'ils n'ont pas développé leur intellect suffisamment. Et c'est vrai dans les pays où il n'y a pas d'école, par exemple. Si on n'éduque pas les gens pour avoir l'esprit critique, et ils n'ont pas d'intellect développé. Et donc tout est basé sur l'émotionnel.
Effectivement. Alors vous parliez de l'émotionnel et merci beaucoup de nous avoir appelé, Philippe, pour soulever cette question. Vous en parlez aussi, Sophie Mazet, de l'émotionnel, parce que l'émotion, elle est partout, notamment dans les médias. Kamala Harris, qui est vice-présidente des États-Unis, a reconnu elle-même, mais ça c'est du marketing politique, que les gens la prenaient davantage au sérieux quand elle parlait de son parcours personnel, de ses origines sociales, plutôt que quand elle expliquait les solutions à mettre en œuvre pour régler tel ou tel problème. C'est quand même de l'émotion. Si c'est pas ça le règne de l'émotionnel en politique.
Oui, mais ça fait un petit moment que c'est comme ça. C'est toute la question du storytelling, en fait. Oui. On préfère. Mais c'est aussi toutes les. Vous savez, toutes les conférences TED. Qui passionne le monde. Alors moi, j'avais été invitée à faire un TEDx, donc pas le TED pour les moins bons, j'imagine, quelque chose comme ça. Et puis on m'avait dit qu'il fallait, c'était très formaté, on m'avait dit il faut commencer par une anecdote personnelle, si possible de votre enfance. Et bon, moi j'avais pas trop grand chose à raconter, enfin j'en aurais eu, mais je voyais pas vraiment l'intérêt. Mais effectivement, c'est ce qui fonctionne. Et quand je travaille avec les élèves sur qu'est-ce qui fait une bonne information, non pas bonne au sens elle est vraiment utile, mais qu'est-ce qui fait qu'une information va arriver au JT, il va arriver en numéro un des tendances sur Twitter ou partout ailleurs sur Internet, l'émotion en fait partie, oui, bien sûr, l'émotion est un critère.
En même temps, ça ne veut pas dire que le témoignage n'a pas une valeur, parce que témoignage, il permet aussi d'incarner un problème, d'incarner un sujet.
Hein, le témoignage est précieux, bien sûr.
Un sujet sur le mal logement, il faut bien qu'on entende des gens qui vont crier leur douleur d'être expulsables de leur logement, par exemple. Mais effectivement, ça ne donne pas d'informations.
C'est toute la différence entre un sujet et un fait divers.
Oui. Sur l'émotion, Sylvain Vagnon, oui. Puisque en éducation civique et morale, ça s'appelle encore comme ça en France, il y a bien le mot.
Et oui, oui. Enseignement moral et civique.
Est-ce qu'on travaille sur ce problème-là qui est aujourd'hui quand même extrêmement répandu?
Oui, alors l'idée justement de cet enseignement moral et civique, c'est de dire justement qu'on va travailler les émotions aussi et de les prendre en compte en vérité, puisqu'ils interviennent en vérité dans notre façon de penser. Et puis évidemment, l'idée c'est de ne pas rester qu'au niveau du témoignage ou de l'émotionnel, mais de passer justement au jugement. Et ce que je voulais dire, c'est tout à l'heure, c'est vrai qu'on parle beaucoup des jeunes et c'est normal parce qu'on parle de l'école, mais justement une des caractéristiques actuelles, c'est que quand on parle des fake news, ça ne touche pas spécifiquement les jeunes. On voit très très bien que dans l'actualité, le complotisme, les fake news sont quand même liés à l'ensemble de la population et à des personnes adultes qui prennent des décisions certaines fois. Et donc c'est d'autant plus grave. Et justement, si on revient à l'idée de cet esprit critique à l'école, c'est d'apprendre justement dans une société finalement de l'océan de connaissances multiples, de s'informer et aussi de prendre le temps de s'informer. Et ce temps évidemment est souvent un peu complexe dans notre société très rapide, mais on sait bien que si on prend le temps et si on comprend avant de juger, c'est là qu'on va pouvoir développer, évidemment, et évaluer une information.
Alors, en même temps, tout est sur la table, enfin, tout est sur Internet, vous le disiez, Sophie Mazet, mais les problèmes ne sont-ils pas beaucoup plus complexes aujourd'hui ?
C'est-à-dire
les problèmes sur lesquels les élèves auraient à se confronter pour se forger une opinion. Est-ce que les problèmes ne sont pas plus complexes, plus compliqués aujourd'hui, même si toute l'information est disponible ?
Justement, peut-être parce que toute l'information est disponible, en fait, c'est-à-dire que tout est beaucoup plus complexe parce que on peut trouver tout et alors pas tout et son contraire. On va pas tomber dans le relativisme non plus, mais on peut trouver tout et son contraire sous forme de mensonges, de malhonnêteté. C'est-à-dire qu'il y a une abondance d'informations qui est telle que la question de, comme le disait Sylvain, la question de la hiérarchisation devient beaucoup beaucoup plus compliquée. Ça va beaucoup plus vite.
Alors évidemment, dans votre livre, on trouve, il y a un chapitre « À quoi reconnaît-on un bon charlatan ?» Vous revenez sur le platisme. Le platisme, c'est ceux qui croient que la Terre est plate. Mmh. Alors là, c'est assez simple hein, comme sujet.
Voilà, c'est simple.
Mais il y a quand même 16%, il y a 16% des Américains, je crois, qui partagent cet avis que la Terre est plate. 9% des Français. Ça, c'était un sondage IFOP en 2019. C'est des chiffres qui peuvent bouger, qui peuvent changer. Mais il y a des sujets plus ou moins complexes tout de même.
Alors sur le platisme, oui, c'est peut-être un petit peu moins complexe. En plus, il y a le platisme, il y a le récentisme aussi. Ça, c'est des gens qui croient que le Moyen-Âge n'a jamais existé. Donc là-dessus, bon, on peut s'amuser un petit peu. Mais sur la question du platisme, qui est simple, finalement, on aurait peut-être dû ne pas en parler autant parce que c'est produit ce qu'on appelle l'effet Streisand. C'est Barbara Streisand qui avait voulu qu'on ne diffuse pas des photos de sa villa. Et en fait, du coup, ça avait mené à l'effet inverse. Tout le monde avait diffusé des photos. Et là, c'était pareil. C'est-à-dire qu'on en a parlé. Peut-être qu'on leur a fait de la pub, en fait, à ces gens. Donc la question était est-ce qu'on doit pas. Bon, moi, j'ai choisi d'en parler, mais tout en faisant pas trop. Donc ça, c'est effectivement, ça fait partie des sujets les moins complexes. Ouais.
Que vous disent vos élèves, Sophie Mazet, après un an d'atelier, une fois par semaine ?
Alors, c'est assez intéressant parce qu'ils ont l'impression d'avoir progressé intellectuellement, globalement. Il y a deux choses que je fais, c'est-à-dire je fais un procès fictif pour leur apprendre à argumenter, donc de façon malhonnête, pour détecter quand on argumente en face d'eux de façon malhonnête, donc non pas pour que eux le pratique dans la vie, mais pour qu'ils le voient quand ils y sont confrontés. Et en début d'année, je fais des plaidoiries. Voilà, ils deviennent avocats, ils font une plaidoirie. En début d'année, c'est un peu hésitant. C'est pas mal parce qu'ils appliquent la méthode du cours, mais à la fin de l'année, on refait la même chose, de façon un tout petit peu différente, mais ils doivent refaire une plaidoirie. Et en fait, là, ils sont bien meilleurs. Et c'est assez rigolo parce que je fais venir des élèves d'autres classes, en principe, de seconde, pour voir s'ils ont envie de s'inscrire l'année d'après. Et ils sont souvent impressionnés. Ils me disent oh là là, qu'est-ce qu'ils argumentent bien ? Et je leur ai dit mais vous êtes complètement fait avoir, là, en fait.
Et sinon, par rapport au monde qui les entoure, vous avez l'impression qu'il change, que les lignes bougent ?
C'est compliqué. Là, je pense que je ne saurais pas vous faire de réponse pas nuancée, parce qu'en fait, ça, c'est très, très difficile à savoir. C'est un peu insaisissable aussi, parce que parfois, ça met aussi plusieurs années, plusieurs mois, voire plusieurs années à infuser. Donc là-dessus, je ne vais pas m'aventurer à vous faire une réponse.
En tout cas, merci à tous les deux d'avoir participé à cette discussion. Merci à vous, Sylvain Vagnon, historien spécialiste de l'éducation, des sciences de l'éducation à l'Université de Montpellier. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Et Sophie Mazet, donc professeure d'anglais en lycée. Votre dernier livre, c'est « Autodéfense intellectuelle, le retour ». Lexique pour esprit critique. Dans quelques instants, comme chaque semaine, on aura les conseils du psychologue Ibrahima Giroud pour les parents. Et aujourd'hui, comment bien utiliser la vérité dans l'éducation des enfants ? Ce serait intéressant d'avoir votre point de vue, Sophie Mazet, sur la chronique d'Ibrahima Giroud. Ça sera dans quelques minutes. Juste après, Switch It Up, Protogé et Kofi. Them selling on normal, flow them in mortal, yeah, more than a jawful, yeah, rhythm them awful, wicked and lawful, and we not stopping, no, and no time for no stoplight, man I travel at top speed, but this are the top flight, this are the big league, so every 8 bar or 16 is a big deal, food for your thought and a kid's meal, package it proper, it been sealed, recipe of a master, them boy they can't boil water, cooking up a recipe a disaster. That are the reason, this are my season, them my degrees are torture. They're ready torture, different peaks, so regular people now walk at. Me, I compete with my past self, that is what making me sharper. Look how we achieve every quarter, way before we make a quarter. Always have heart, so when times hard, we pick up and we go harder. None of my people no starve, yeah, yeah. Me have the world in my palm, take it and bring it a yard, yeah, yeah, yeah.
Them say they love we, but that guy is in it. Get where they want and switch it up already.
We get the top of the market. If there is ever a problem, listen to the album and that go to solve it. We are tired clean, we are said I can. We not go with the flow, we are head height. Sevilla will it down like a Jedi. Couple souls, couple days, pan a brot in a bed and the dance just come in pan a red eye bow. Cerebral flow in my head I go. Try reach me now, but my cell line slow. I keep it low, it's like where I go. Try teach me how, but I said I know. People know me like you, like hope, and I need to know premise. When I show, I collect my dough, do my thing and go.
Don't, when you say hello, proto, the world know to, them one motto. Touchdown UK, UK sellout show. New minister culture, we get some vote.
A regular we have a transit to airport, and a baker we outstanding to a force. Could you forget where me belong, me to engross? And if me ever drop a song, diggy reinforce. Yeah, strong like a tonica. Be the drum and then play the harmonica. Diggy down the baddest on the planet. Supersonic tougher than a granite.
We are professor, them are the janitor. Oppressor, them are threat and a panic. So you know, see the difference of the caliber. No, no less than atomic when we drop it automatic. Say a bang.
Them say them love we, but that I see them. Get where them want and switch it up already. Them not go draw we out on no, no today. It not so easy if it drain the energy.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Enfants d'ici et d'ailleurs, c'est un rendez-vous régulier de conseils d'analyse sur la parentalité avec le psychologue Ibrahima Giroud. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes psychologue, vous collaborez à l'UNICEF, à Dakar. Et aujourd'hui, comment bien utiliser la vérité dans l'éducation des enfants? On dit souvent que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais pour vous, tout est dans la méthode.
Dire la vérité est une des problématiques les plus discutées dans les relations amicales, dans les relations familiales ou même professionnelles. On dit que même les menteurs détestent qu'on leur mente. Mmh. Dire la vérité est certainement un des sujets les plus récurrents dans les échanges parents-enfants et une des valeurs les plus recherchées par les éducateurs. Donc la difficulté ne réside pas dans la vérité elle-même, mais plutôt, Emmanuel, dans la façon de la dire, de la partager pour faire progresser les enfants et non pour les punir ou les humilier.
Alors, comment bien utiliser la vérité dans le cadre de l'éducation des enfants?
Par exemple, si je prends mon enfant à mentir, c'est moi qui décide si je veux rester dans la vérité du moment, c'est-à-dire que sur le coup, il est un menteur.
Bah, la réaction d'un parent, c'est de lui dire « mais tu mens ».
C'est ça, mais maintenant, il y a d'autres façons de faire. Si je fais cela, et j'aurais raison peut-être en partie de le faire, je me base sur les faits réels, mais j'aurais tort en grande partie, car d'une part, j'agis comme si je sais de quoi demain est fait, c'est que je fixe le comportement de l'enfant. Alors qu'en réalité, il est en devenir, il change. Je transmets également à mon enfant en le condamnant ainsi au mauvais modèle éducatif pour ses enfants, à lui. Donc je suis en train d'influencer négativement l'éducation de mes petits-enfants et je suis en train de projeter de mauvaises choses dans le futur.
L'enfant ment à un moment donné, à un instant T, et pas forcément les jours suivants, ça n'est pas pour autant un menteur. C'est ça que vous voulez dire ?
Exactement. C'est dans la façon de corriger son mensonge qu'on le fixe dans ce comportement ou qu'on l'aide à échapper du mensonge. Parce qu'il n'y a aucune utilité à dire une vérité qui fixe l'enfant dans le mauvais comportement.
Alors du coup, il faut dire à son enfant « maintenant tu dois dire la vérité » ou est-ce que la vérité peut être néfaste et il faut continuer à rester dans ce flou, dans ce mensonge avec l'enfant ?
Le problème réside dans la violence de celui qui croit détenir la vérité et qui n'a pas pesé le poids de sa violence à lui-même ou à elle-même comparé au mal qu'il veut dénoncer chez l'enfant. Prenons un exemple concret. Parfois, l'enfant ment parce qu'il a peur de la réaction du parent. Et le caractère vicié du mensonge est tel que plus il ment, plus il ment. Donc, un mensonge plus grand étant nécessaire pour couvrir un mensonge précédent. Donc, l'accumulation et l'agrandissement croissant des mensonges finit par créer une sorte de bulle dans laquelle l'enfant va vivre, une bulle qui est remplie de prétextes, préparés et prêts à être servis. C'est cette bulle-là qui éloigne l'enfant de la réalité et de la réalisation effective du travail qui est demandé.
Alors, comment sortir cet enfant de sa bulle de mensonges ?
Si on prend l'exemple de l'école, au lieu de travailler à bien préparer un contrôle de mathématiques, l'enfant est persuadé qu'il a une explication prête à servir qui lui permettra d'échapper aux réprimandes de sa propre conscience, mais également de ses parents. Il se prépare déjà à n'avoir qu'une mauvaise note en réalité. Et puis, au fur et à mesure du temps, les mauvaises notes tombent et s'accumulent et exaspèrent les parents. Donc, soit le parent surréagit en voyant la pile de mauvaises notes, ou alors il va avoir une attitude qui permettra à l'enfant de se réformer progressivement. Ce parent-là, qui n'est pas piégé, on va dire, par son propre comportement, identifie bien que le mensonge est un problème. Mais il ne subit pas l'apparente urgence du moment. Mmh. Ce n'est pas qu'il faut changer les choses tout de suite, c'est qu'il faut donner du temps. Exactement.
Ce que je comprends bien, Ibrahim Al-Girou, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur le mensonge lui-même, l'enfant qui a menti en disant qu'il n'avait pas pu bien préparer son contrôle de mathématiques, etc., mais sur le fond du problème. Pourquoi son enfant ne travaille pas à l'école, par exemple ? Pourquoi il n'a pas envie de travailler ?
Et surtout avoir un objectif un peu à long terme.
Oui.
Parce que l'objectif du parent n'est pas de démontrer à l'enfant par A plus B qu'il ment, mais plutôt de l'aider à progresser une fois que le comportement du mensonge est là. C'est pour cela qu'il ne condamne pas l'enfant et qu'il considère le mensonge comme une étape de la vie qu'on peut dépasser. Vous voyez que tout ça, c'est dans le dialogue, on est dans le dialogue.
Oui.
Donc, un exercice simple pour aider l'enfant, c'est d'organiser avec lui des activités d'endurance comme la marche sur des distances assez raisonnables. Et ne cédez pas au premier caprice de l'enfant s'il veut arrêter l'exercice. Vous pouvez aménager des pauses, mais il faut tout faire pour finir l'exercice de la marche, par exemple. Donc, arrivé au bout, l'enfant va se rendre compte, Emmanuel, qu'il peut se surpasser. Il gagnera de plus en plus confiance en lui et en votre relation. Il pourra s'éloigner du mensonge. Donc, vous découvrirez tous les deux que l'on apprend les grandes leçons de la vie quand celui qui les enseigne n'humilie pas celui qui les apprend.
La question de la semaine, Ibrahim Al-Girou.
Emmanuel, comment les enfants pourraient-ils apprendre la vertu de la vérité si les parents n'ont pas la bonne méthode pour l'enseigner ?
À méditer. Merci à vous, Ibrahim Al-Girou, psychologue à Dakar. On retrouve toutes vos chroniques sur le site RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins et bien sûr en téléchargement, en podcast. La chronique, c'est Parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Merci et à très bientôt, Ibrahima.
Au revoir, Emmanuel.
Comment enseigner la vertu de la vérité si les parents n'ont pas la bonne méthode pour l'enseigner ? Voilà la question que posait Ibrahima Girou, le psychologue. Sophie Mazet, est-ce que vous êtes confrontée aux mensonges de vos élèves ?
Oui, bon, ça, c'est des mensonges classiques. Oui, ça arrive assez souvent. Alors ce qu'il disait, en fait, c'est très très intéressant sur la question de ne pas humilier. Il faut vraiment ne pas rompre le dialogue, en fait. Et même si, alors moi, c'est dans d'autres contextes, hein, c'est « Madame, j'ai pas triché au contrôle », quand on sait très bien qu'il a triché. Enfin, je choisis de faire un petit peu, finalement, ce qu'il dit, c'est-à-dire de rester sur le... de maintenir le dialogue, tout en laissant le zéro parce qu'ils ont menti, tout en leur disant « Voilà, je sais que vous avez menti, c'est comme ça, je ne céderai pas un pouce de terrain là-dessus, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait au-delà ?» Et puis, voire de dédramatiser aussi, de dire « Voilà, ça arrive, qu'est-ce qu'on fait après ?»
Ouais, vous refusez de débattre sur... les faits qui sont niés.
Ah oui, non, là, je ne débat pas du tout. Non, il n'y a pas de débat à avoir, mais par contre, il y a un dialogue à maintenir, ça, c'est sûr.
Par vos élèves. Merci en tout cas à vous, Sophie Mazet.
Merci.
Autodéfense intellectuelle, le retour, l'esprit lexique pour les esprits critiques. Et merci aussi à toute l'équipe qui prépare cette émission, Delphine de Dianous, Juliette Brault, Romain Dubrac. Demain, 7 milliards de voisins, on va s'interroger sur les campagnes, tantôt idéalisées, les petits oiseaux, la liberté au jardin de ne pas porter de masque, et tantôt ignorées, notamment par les pouvoirs publics, et pas seulement. Souvenez-vous de ce que disait le cinéaste Michel Audiard, à la campagne, le jour on s'ennuie, le soir on a peur. Eh bien, y a-t-il une place pour un lever de soleil sur les campagnes ? On en discute demain, dans quelques instants, ce sera le journal sur RFI.
Milliards de voisins, c'est fini.
Couleur tropicale, Claudiciard.
Ce vendredi, couleur